Bonjour à toutes et à tous, c'est JD. On est toujours au Parc de la Tête d'Or pour le troisième épisode de la série sur l'histoire du Parc de la Tête d'Or que je réalise en coproduction avec les archives de la ville de Lyon. Dans cet épisode, on va aller rejoindre aux fameuses et iconiques grandes serres, ni plus ni moins que la directrice du jardin botanique pour un tour guidé très particulier, et on va voir ensemble l'histoire de ce jardin botanique, à quoi il sert et surtout à quoi il sert. J'ai même pas fait exprès, il y a un jeu de mots de fou. Et surtout, on va voir des plantes de fou. Vous allez voir, ça va être très stylé. Le temps qu'on coupe à travers le zoo pour rejoindre les grandes serres, sur la route, je vais vous raconter ce qui a amené la création de ce jardin botanique au sein du parc. Allez, c'est parti, sur les traces de l'histoire.
Comment est mort Napoléon ?
Il est mort guillotiné, comme Bonaparte. Bah, comme tous les rois, en fait.
Attendez, attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis ?
Les Japonais ?
Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus.
On l'a vu dans les précédents épisodes, le parc il a été créé pour donner de l'air et du vert hein, aux populations urbaines qui baignent dans la pollution. Cependant, le parc ne va pas avoir qu'une visée hygiéniste, on lui voue aussi une destinée scientifique. On est deuxième moitié du 19e siècle, les découvertes scientifiques se multiplient et en France, en fait, on crée dans toutes les grandes villes les structures pour permettre ces avancées scientifiques. Le parc de la Tête d'Or va donc être utilisé pour donner à la ville le jardin botanique qu'elle mérite. En fait, tout part bien avant hein, d'un décret signé juste après la révolution de 1789. En 1794, un décret qui oblige toutes les villes de plus de 300 000 habitants de se doter d'une école centrale pour y apprendre sciences, lettres et arts. Et un jardin botanique doit y être également créé, juste à côté. Le dénommé Jardin des plantes exotiques et indigènes est alors installé sur les pentes de la Croix-Rousse en 1804 à l'emplacement de l'ancien couvent de la Déserte. C'est juste au sud de l'actuelle place Satonée. Hein. Sauf que 50 ans plus tard, l'étroit est riche de plus de 4000 plantes. Il est finalement transféré au parc en 1857 et prend son nom final de Jardin botanique. Petite parenthèse, son déménagement permettra de creuser le funiculaire de la Croix-Rousse en 1862, de retrouver l'amphithéâtre des Trois Gaules, d'ailleurs qui ne sera pas encore identifié comme tel, hein, il faudra attendre quasi 100 ans en fait, avant de vraiment l'identifier en tant que tel, mais on découvre les ruines en tout cas. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est d'en défoncer la moitié au passage. Ouais, bah oui, il n'y avait pas de fouilles préventives au 19e siècle. Mais en 1859, il est décidé que l'orangerie du Jardin des Plantes y soit déplacée, à son tour, et pierre par pierre, elle sera reconstruite à l'identique. A savoir que l'orangerie stockait les orangers qui ornaient la place des terreaux, et oui, parce que devant l'hôtel de ville, il y avait des orangers, et ça devait être hyper stylé, hyper déçu qu'il n'y en ait plus. Le transfert du jardin des plantes permet aussi, du coup, de l'agrandir et de lui donner de nouvelles fonctions et de nouveaux bâtiments. Et rapidement, Gustave Bonnet, qui n'est pas qu'ingénieur des ponts et chaussées, il est aussi peintre, dessinateur, sculpteur, mais surtout, en fait, il a une passion botanique. Et c'est naturellement, en fait, qu'il devient aussi directeur du jardin botanique. Il lui dessine un plan ambitieux avec de grandes serres, des jardins dans tous les sens, un arboretum riche, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, une pépinière, une école générale de botanique, un amphithéâtre, une école médicinale, une école des rosiers, une collection de céréales, une collection de plantes vivaces, une collection de plantes annuelles, une collection de dahlias, des arbres fruitiers, et j'en passe, et j'en passe. Au final, la surface du jardin botanique couvrira 8 hectares avec 6500 mètres carrés de serres. C'est énorme! Mais pour en parler bien mieux que moi, je vais rejoindre tout de suite la boss du jardin botanique, c'est Juliette Babin, directrice du jardin botanique. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors Juliette, qu'on crève l'abcès tout de suite, est-ce que notre jardin botanique à Lyon, c'est le plus stylé de France ?
Alors je ne sais pas si c'est le plus stylé, mais par contre c'est un des plus riches de France avec le plus grand nombre d'espèces. Voilà, on est quelques jardins botaniques et celui de Lyon fait référence en France.
Pourquoi celui de Lyon, il est devenu justement le premier de France ?
En fait, c'est aussi qu'il faut vraiment imaginer le 19e revenir dans le contexte de l'époque. Même au niveau européen, il y a un véritable enjeu agronomique, en tout cas, d'accès aux épices, d'accès à des nouvelles, à des nouveaux fruits, à des nouveaux... voilà, des nouvelles saveurs. Et notamment, il y a eu beaucoup d'enjeux sur la culture des premiers ananas en Europe. Voilà, ramener certaines épices, essayer de les cultiver, en Europe.
Et c'est ce qui a fait que Lyon, du coup, s'est démarqué des autres ?
En fait, les collections du Jardin botanique, à ce moment-là, elles sont effectivement faites sur ce que les explorateurs ramenaient de leurs découvertes. Aujourd'hui, ce qu'on ne peut plus faire, en fait, on ne peut plus aller dans un pays et ramener. On a besoin d'autorisation, on a besoin... tout est bien encadré, et tant mieux, hein, parce qu'il faut encadrer le
voilà, c'est du braconnage un peu.
Là, plus qu'on fait, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était presque pas une forme de piège, mais en tout cas, on n'y allait pas dans la finesse. Allait, on essayait de ramener ce qu'on pouvait ramener, ce qui nous semblait intéressant. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans, dans cette approche-là. À Lyon, il avait un enjeu qui était moins économique que ça. Okay. Il avait un enjeu qui était vraiment plus lié à la pharmacie et du coup, à la pharmacopée, notamment avec la création de la première école vétérinaire qui est à Lyon. Et du coup, on avait plus cet enjeu pharmacie, découverte des nouvelles espèces pour la pharmacopée.
Okay. Ce jardin botanique, tous les Lyonnais le connaissent parce qu'il passe devant. On connaît surtout les grandes serres, bien évidemment. Elles sont devenues une icône de la ville. Mais qu'est-ce qu'on y trouve vraiment dans ce jardin botanique ?
Alors c'est vrai que l'image d'Épinal du jardin botanique, c'est ces grandes serres qui sont impressionnantes, devant lesquelles on se trouve là à l'instant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement une partie de plein air qui correspond en fait au dessin original dans le parc de la Tête d'Or. On avait du coup ce demi-cercle avec cette école de botanique notamment. Et puis on a des serres qui se sont rajoutées petit à petit dans ce dessin original avec la serre hollandaise, la serre Victoria, les grandes serres bien entendu, et ce que nous on appelle les petites serres chaudes. Qu'on aura peut-être l'occasion de découvrir après.
Qu'est-ce qu'on y fait dans le jardin botanique ?
En fait, les missions d'un jardin botanique, ça répond à une charte qui est la même pour tous les jardins botaniques, que ce soit en France ou au niveau international. Et du coup, les trois grandes missions, c'est la recherche, c'est la conservation et c'est l'éducation. En fait, si on n'a pas une de ces trois missions, on perd vraiment notre cœur de métier.
Donc là, on rentre dans la grande serre, c'est ça ?
Oui, on est dans la grande serre avec ses 21 mètres de hauteur sous plafond.
Et donc là, vous disiez qu'il y a différents écosystèmes à chaque fois dans cette serre, dans les différentes serres. Dans cette serre, qu'est-ce qu'on a ? C'est quel écosystème pour quel type de plantes ?
Alors là, on est sur... en fait, la grande serre, elle a été construite après un hiver très rigoureux. Donc, les collections étaient menacées. On remonte ça au 19e, hein. Collections menacées. Donc, on décide de construire ces grandes serres pour abriter des plantes qui ont besoin de conditions chaudes. Alors là, on ne parle pas de température 28 degrés tropicale. On a trop de hauteur sous plafond pour pouvoir chauffer à ces températures-là. On est en hiver sur des températures qui n'excèdent pas les 15 degrés. Peut-être des fois entre 18 et 15 selon les différents endroits de la serre. Et puis par contre en été qui là vraiment monte en température, en chaleur à ce moment-là. Donc on essaie toujours d'avoir une recherche de sobriété. C'est vrai qu'on s'imagine que les serres, c'est très chaud, c'est très, très chauffé. Non, on a vraiment l'idée de reconstruire des climats et du coup de coller au mieux au climat des écosystèmes auxquels ça correspond.
D'accord. Est-ce qu'on a, par exemple, je parle pour toutes les serres, mais dans celle-là en particulier, des espèces qui sont hyper rares, qu'on retrouve, qui sont rares ?
Alors, je peux vous emmener voir, on a la doyenne du jardin botanique. On dit la doyenne parce que c'est une plante, c'est un cica, donc c'est des plantes qui ont mâles et femelles, des pieds mâles et des pieds femelles. Okay. Et donc là, c'est un pied femelle, et cette plante a été installée au moment de la construction des grandes serres. Donc c'est notre doyenne qui se situe dans la serre Pandanus.
Ok, super, et je vous suis. Donc là, on rentre dans la partie un peu plus basse en termes de hauteur.
C'est ça, donc on est dans une petite loge des grandes serres qui s'appelle la serre Pandanus. C'est une serre dans laquelle on va retrouver beaucoup de plantes qui sont typiques de l'outre-mer. C'est important pour nous de travailler justement à la préservation aussi des espèces d'outre-mer. Et notamment, bon là, ça sort un petit peu du paysage, mais on voit notre doyenne, donc qui a une des plus grosses, un des plus gros pieds, qui est vraiment impressionnant. Alors c'est vrai que pour celui qui n'a pas l'œil averti, oui, c'est pas si impressionnant que ça. Pour nous, ça reste vraiment un de nos emblèmes.
Il fait, là, je le ressens, il fait, est-ce que c'est parce qu'il y a le soleil qui tape, mais il fait soit plus humide, soit plus chaud, alors qu'on est dans la même serre, au final?
Oui, alors effectivement, donc celle-là, comme je disais, c'est une sorte de petite loge, donc c'est une sorte de serre fermée. On a beaucoup plus d'humidité dans cette serre-là. On va beaucoup plus, ce qu'on appelle bassiner. Bassiner des plantes, c'est pas les mettre dans un bassin, c'est les arroser, les vaporiser le feuillage pour qu'il y ait une humidité constante dans l'air, une hygrométrie qui reste importante, parce que c'est des plantes qui en ont besoin. Voilà, donc c'est pour ça qu'elles sont situées aussi dans cette petite serre qui a ces conditions un peu particulières. Dans la grande serre, on ne pourrait pas maintenir non plus une hygrométrie suffisante.
Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place et surtout comment ils ont évolué dans le temps? Parce que j'imagine que les systèmes qu'on a aujourd'hui sont bien plus modernes que ce qu'il y avait au 19e siècle.
Bah, notamment, ce qui a beaucoup évolué, c'est le chauffage. Hein. Ça, c'est certain. Là, on est juste sous mes pieds. On a l'ancien système de chauffage des grandes serres.
À l'époque, ça devait être des chauffages au charbon, non?
Voilà, voilà, donc on avait du chauffage au charbon, c'est ce que je cherchais. Du coup, qui circulait voilà, dans les petites travées qui sont sous nos pieds actuellement. Aujourd'hui, on n'est plus du tout avec ce système de chauffage. On est au chauffage urbain, donc voilà, on a un chauffage qui est plus respectueux, en tout cas plus raisonné dans son utilisation. On a deux plantes que je peux vous faire voir, oui. Une que je peux vous faire sentir.
Ah.
Je fais ce qu'il ne faut surtout pas faire.
Okay. On dira rien.
On dira rien.
Ce n'est pas enregistré plutôt.
Du coup, là, on a ce qu'on appelle le 4 épices. Donc, on le connaît sous la forme commerciale, ce qu'on va retrouver pour cuisiner, faire voilà, les gâteaux, notamment alsaciens. Mm-hmm. C'est pas le 4 épices commercial, qui, lui, est un mélange d'épices, mais on a exactement les mêmes odeurs. On peut l'acheter aussi pour remplacer le 4 épices. Et je vous laisse sentir. Voilà,
oui.
Ça sent très fort.
Ça sent effectivement un peu les épices de Noël. Ouais, voilà. C'est incroyable. Et donc là, en fait, pour décrire, c'est un grand arbre aussi, on pourrait dire. Et en fait, c'est juste le fait d'avoir
broyé
feuilles, c'est une voilà. feuille. Une
c'est
feuille
vraiment
d'arbre.
Les feuilles de cet arbre qui ont cette odeur très particulière, qui peuvent être utilisées séchées, voilà, et qui sentent très bon. Justement, on a quelqu'un qui est en train de faire une visite du jardin botanique. On parlait tout à l'heure de nos missions importantes au jardin botanique, oui. Notamment la mission éducation, en tout cas valorisation de nos collections pour le grand public. Et les visites guidées en font vraiment partie. C'est une façon d'apprendre à découvrir ces serres. On les connaît comme serres d'agrément, mais c'est important aussi d'avoir toutes ces petites histoires qui font le jardin et qui font la connaissance qu'on a aujourd'hui en botanique.
Là, on passe dans des entremêlements de différentes plantes exotiques. C'est juste fabuleux. Hein. Si vous n'êtes pas allé encore au cerf, je vous y invite chaleureusement.
Je vais passer par les coulisses.
Allez, on passe par les coulisses. Hop. Pourquoi à Lyon on garde des autant d'espèces exotiques puisque c'est pas du coup c'est pas leur environnement naturel.
Eh ben alors ça tombe parfaitement bien que vous m'en parliez ici parce qu'en fait effectivement on pourrait se poser cette question-là. On a tendance à opposer la conservation in situ, c'est-à-dire qui se fait sur le site, dans l'écosystème, à la conservation ex situ, donc dans un jardin botanique, comme c'est le cas pour nous, alors que c'est en fait deux choses qui se tendent la main, qui travaillent ensemble. On a l'exemple de la plante que je voulais vous montrer, qui est un Nymphaea termarum. En fait, c'est une plante qui a disparu dans son milieu naturel, c'est le Rwanda, elle existait près de sources chaudes, ces sources chaudes se sont taries, du coup la plante a disparu, elle n'existait qu'à cet endroit-là, donc elle a disparu dans la nature. Okay. C'est grâce au travail des jardins botaniques qui ont mis en culture quelques semences qu'ils avaient, qui ont réussi à réavoir cette plante-là. Nous, on l'a actuellement, parce qu'on a travaillé en partenariat avec l'ENS sur ce sujet-là, et du coup on a cette plante-là qui est totalement éteinte dans la nature.
Donc là, on ressort du côté de l'entrée du jardin botanique. Et donc du coup, le bâtiment en face fait aussi partie des petites
c'est
serres.
C'est la serre Madagascar. En fait, il faut imaginer que dans le dessin initial du parc de la Tête d'Or, cet endroit-là n'existait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos grandes serres et nos petites serres se tournent le dos. C'est parce que les grandes serres étaient en limite de propriété du parc de la Tête d'Or. Et puis finalement, la lunette des Charpennes a été acquise par la ville et du coup a permis l'agrandissement du parc sur cette zone-là. Et notamment, on a créé la porte Montgolfier donc, qui donne
sur le lycée du parc.
Sur le lycée du parc. Et du coup, on a... Contrairement à tout le reste du jardin qui a des formes, comme on dit, de jardin un peu à l'anglaise, en tout cas des formes très arrondies dans son cheminement, on est sur quelque chose de beaucoup plus droit, et avec encadré de part et d'autre de nos deux serres, donc la serre de Madagascar et les petites serres chaudes.
Donc là, on passe la double porte. Et je m'accroche au... Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a une plante endémique qui vaut le détour dans cette serre Madagascar ?
Il y en a beaucoup, mais il faudra les... En fait, on peut identifier...
Vous avez le droit à une. Non, allez, deux.
On peut identifier les plantes qui sont intéressantes par, par leurs étiquettes, et notamment le petit liseré rouge où c'est écrit IUCN. IUCN, c'est l'organisme qui fait la liste rouge. Donc... qui liste toutes les espèces qui sont en danger. Quand on dit les orang-outans sont menacés, voilà ce genre de discours, en fait, c'est qu'ils apparaissent sur la liste rouge de l'UICN. Et donc nous, toutes nos plantes qui sont comme ça menacées dans la nature ont ce petit liseré rouge en bas de l'étiquette. Donc voilà, vous pouvez parcourir la serre et chaque fois que vous verrez ce petit liseré rouge comme on a devant nous sur le Bocarnéa, vous savez que c'est une plante qui est menacée dans son écosystème naturel. Au niveau du jardin botanique, on a à peu près 10% de nos collections qui sont menacées, donc qui apparaissent sur la liste de l'UICN.
C'est énorme, 10%.
Oui, c'est énorme. En fait, je me dis toujours que c'est beaucoup trop, pas dans le sens où c'est trop pour nous à gérer, dans le sens où on ne devrait pas avoir tant d'espèces qui sont menacées.
Eh ben, merci beaucoup Juliette pour ce magnifique et très grand tour du jardin botanique. Moi, j'ai appris plein de choses, j'imagine que vous qui écoutez aussi. Et on va continuer tout de suite le parcours au sein du parc à Tête d'Or. Merci Juliette.
Merci à vous de vous intéresser au jardin botanique.
Donc le parc, il a un objectif de verdissement de la ville en plus d'une fonction scientifique avec le jardin botanique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il reste des éléments de cette époque, hein ? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont 170 ans aujourd'hui hein, du parc qu'on pourrait encore retrouver ? Et aussi, bah le zoo, hein, on est passé tout à l'heure à côté. Et les animaux, est-ce qu'ils avaient une vocation scientifique aussi ou est-ce qu'ils sont juste là pour faire beau ? Hein ? Et ben tout ça, et ben vous devinez, on va en parler dans le prochain épisode. Et oui, cet épisode, il est déjà terminé. Mais j'espère qu'il vous a plu. Il a été réalisé en coproduction avec les archives de la ville de Lyon. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes de streaming. Ça fait plaisir. Je me mets en mode opéra sans aucune raison. Ah, n'hésitez pas à me suivre non plus sur Insta. Le compte, c'est hello.jd. Voilà, je fais des petites vidéos sur l'histoire de Lyon. C'est rigolo. Venez voir, on s'amuse bien tous ensemble. En tout cas, merci de votre écoute. Et surtout, à très vite, parce que ce n'est pas fini cette série. À très vite pour marcher ensemble sur les traces de l'histoire.